quand je pense à ces millions de lecteurs qui chaque semaine attendent mes livres, quand je pense à ma responsabilité, je vous l'avoue, mademoiselle, j'ai peur. Moi, je ne veux pas me mettre en avant, mais il me semble que votre thèse aurait plus d'envergure si elle portait sur l'homme qui est au cœur du problème.
Qui ça?
Moi. L'éditeur.
Bienvenue dans L'Heureux Processus, une plongée dans les processus de création, de production et de diffusion d'œuvres et de projets culturels à succès. Par quel travail d'alchimie l'idée de l'œuvre germe-t-elle dans l'esprit des auteurs et des acteurs de la production culturelle? Quelles sont les différentes étapes, métiers, méthodes et outils mis en place pour aller de cette étincelle à la diffusion de l'œuvre auprès d'un public? J'ai un rapport ambivalent à Lyon. J'y suis allé quelques mois pour un taf un peu naze. Je vivais alors au quartier Grand Clément, sorte de diagonale du vide de Villeurbanne. C'était un hiver froid et pluvieux, ambiance poulet tandoori et film au lit. Et puis je suis allé deux fois à Lyon pour les nuits sonores, en one shot, le temps d'une semaine. Le quartier Confluence n'est alors plus ce lieu moderne, garni d'immeubles d'architectes chelous, mais devient, avec le quartier de Gerland, l'épicentre de la fête et de mon ébriété. C'est une véritable fièvre qui s'empare de toute la ville pour ce que Pedro Winter a considéré être le festival de Cannes des musiques électroniques. C'est la fin du printemps, le soleil tape déjà bien, les concerts et les événements jaillissent de toutes parts, au point d'en être un peu étourdi. Ce premier épisode est déjà un peu spécial puisqu'on ne va pas parler d'une œuvre à proprement parler, mais d'un événement culturel. Ce qui ne m'intéresse pas moins quant à la façon dont est mis en œuvre ce qui reste un projet culturel, qui implique entre autres un financement, des artistes, un public et une organisation pour ficeler tout ça. Avec Patrice Moore, qui est un des cofondateurs des Nuits Sonores, nous avons parlé des origines du festival dans le contexte culturel rhône-alpin, et de la façon dont on organise et dont se développe ce qui est devenu un des plus gros festivals de musique français. Bonjour Patrice Moore, tu es DJ donc sous le nom de DJ P. Moore. Tu fais de la techno très inspirée de celle de Detroit.
On peut dire ça, ouais, entre autres, même si je joue pas que ça, mais... Ouais. Oui, souvent on retrouve cette influence dans la plupart de mes sets, on va dire plus orientés techno.
Yes. D'ailleurs, nous sommes donc actuellement à l'Hippodrome d'Auteuil, où tu joues tout à l'heure, juste avant Fatboy Slim. Donc tu es un pionnier de la musique électro, et notamment de la scène techno rhône-alpine des années 90. On t'appelle parfois le Godfather lyonnais, j'ai vu ça.
Oui, pas que lyonnais, même des fois français, mais ouais. On nous partage souvent cette étiquette avec Laurent Garnier, mais moi ça me fait plus marrer qu'autre chose. Ouais.
Tu es aussi chargé de production, tu as organisé des soirées à cette époque-là, notamment les soirées hypnotiques. Tu as aussi participé à la création de Technopole et,
absolument,
et
ouais, ouais.
De la Technoparade.
Tout à fait, ouais, ouais, cofondateur de Technopole et de la première Technoparade, puisque tout ça est parti de Lyon et suite à l'annulation de la soirée Polaris à l'Altony Garnier, ben voilà, ça nous a incité à, avec tous les camarades de l'époque, à se réunir et d'un grand brainstorming est née l'association Technopole. Voilà. Le siège social est resté pendant, je sais pas, un an et demi chez moi. C'était une époque assez rigolote, mais bon, pour le coup, fondatrice, quoi. Ouais, c'est des bons souvenirs.
Voilà, et puis je fais un petit ellipse temporel. Tu as cofondé Les Nuits Sonores, que tu as organisé pendant 12 ans, de ses débuts en 2002 jusqu'en 2014,
ouais.
Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours et notamment ce qui t'a conduit à porter la casquette d'organisateur de concerts et de festivals? Et est-ce que tu peux nous présenter rapidement Les Nuits Sonores?
Alors là, c'est plein de questions en une, mais c'est vrai que pour tenter de croiser ces questions et d'y répondre, là, j'ai toujours eu un peu cette double casquette d'artiste et à la fois d'organisateur. Parce que les coulisses m'ont toujours autant passionné que la scène, et même à une époque, si ce n'est plus, j'étais dans ma jeunesse beaucoup plus attiré par l'organisation. Aujourd'hui, on va dire que c'est l'inverse. C'est la scène qui a repris le dessus après mon retour aux platines. Parce que là, je fais une grande ellipse, mais moi, j'ai tout arrêté. Ma carrière artistique, je l'ai arrêtée à l'aube des années 2000, entre autres pour me consacrer notamment effectivement à l'organisation de Technopole. Et ça fait maintenant 4 ans que j'ai repris les platines, et d'avoir arrêté Nuit Sonore m'a permis justement de après un petit break, et permis de se ressourcer, de reprendre le mix. Mais donc voilà, pour ça, pour dire à cette époque-là, fin des années 80, début des années 90, les coulisses et l'organisation étaient quelque chose qui me passionnait. Je débordais d'envie, d'idées. Et puis voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi, qui est inné. Et quand on a des compétences et des facultés pour créer des événements et les diriger, les organiser, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc j'ai couplé à cette époque-là, quand je commençais à mixer dans les teufs techno, j'ai couplé cette passion avec moi-même l'organisation de pas mal d'événements divers. Parce que voilà, c'était une période ultra riche, ultra foisonnante, où on restait encore dans une niche assez underground, dans quelque chose souvent d'interdit. Donc à chaque fois, c'était un challenge et un défi que de pouvoir monter une soirée qui ait lieu et qui se passe bien, ce qu'aujourd'hui les jeunes générations connaissent moins, parce que cette culture est complètement établie. Quand j'ai tout arrêté, et après quelques années passé loin des musiques électroniques, effectivement, le projet Nuit Sonore a commencé à germer dans la tête de quelques amis et de moi-même. Et j'ai franchi le pas en me disant pourquoi pas revenir à mes premiers amours et effectivement pouvoir enfin monter l'événement, le festival dont j'ai toujours rêvé de vivre en tant que public, en tant que moi-même festivalier. On avait cette opportunité et ambition de pouvoir monter ce festival qui, dès la première édition, ressemblait déjà beaucoup à ce qu'il est encore aujourd'hui.
Oui.
Un peu avec les mêmes orientations, les mêmes programmes. Voilà, un vrai festival pluridisciplinaire, plurimusical, en plein cœur de ville. J'insiste, voilà, c'était un peu une première en France que de faire ça en dehors des parcs expo et autres grandes salles dédiées à ça. Et multisite qui plus est, et ça c'était aussi dans une ville comme Lyon qui était réputée pour sa frilosité à l'époque, un sacré challenge, mais qu'on a réussi à monter. Voilà, on est arrivé au bon moment, au bon endroit avec le bon projet. Et c'est voilà, c'est un peu le bébé dont je suis évidemment le plus fier. Mais ça a été ma dernière contribution à l'organisation, mais même si elle a duré. Elle a duré sur un peu plus de 12 éditions maintenant. C'est vraiment un festival pluridisciplinaire, c'est pas que de la musique, même si essentiellement, hein, c'est très, très centré sur la musique, mais pas que, mais on va parler des cultures électroniques. Multi-style, hein, on n'est pas un festival de techno, ça va bien plus large que ça. Il y a beaucoup de places faites, notamment rock alternatif, enfin voilà, tous les courants dont on estime voilà, qu'ils participent un peu à cette effervescence culturelle et musicale. Et un festival multi-site, multi-programme et multi-public, donc qui en fait un vrai festival au sens premier du terme, avec une vraie richesse et multiplicité des offres et des propos.
Extrait de l'émission « Ça se discute » sur la techno, présenté par Jean-Luc Delarue. Aujourd'hui, forte et encore.
Merci, monsieur Rousseau. Jean-Claude Poulain.
Bonsoir, Jean-Luc.
Bonsoir, dit Chuck. Vous préférez Jean-Claude ou Chuck ou...
Appelez-moi Chuck, puisqu'il n'y a plus de secret.
D'accord, je vous appelle Chuck. Alors, je précise qu'à la suite d'une rêve organisée il y a un peu plus d'un mois, le 20 mai dernier,
exact.
Dans la région de Lyon, vous êtes actuellement sous contrôle judiciaire,
exact.
Mise en examen sous les chefs d'inculpation d'exposition directe à risque,
d'ouverture... Exposition
à risque d'autrui,
voilà.
Pour autrui, d'accord. D'ouverture illicite de débit de boisson et d'escroquerie, parce que vous aviez dit que cette soirée était en fait un mariage.
Dans un château. En tout cas, ce qu'un juge...
Sérieusement, on ne va pas parler de ce procès précisément,
exact.
Puisque ce procès est en
voilà.
cours de justice et la loi
voilà.
Veut qu'on laisse la justice suivre son cours.
C'est un problème pénal, c'est mes avocats qui soulèveront le problème.
On va parler rapidement du contexte culturel de l'époque, justement, Rave Techno qui a précédé la création des Nuits Sonores en Rhône-Alpes. Je sais qu'on parlait du triangle d'or Lyon-Grenoble-Annecy qui s'est suivi d'une chasse aux sorcières techno.
Absolument, oui, la région Rhône-Alpes était... au milieu des années 90, une région extrêmement active et dynamique sur la scène des musiques électroniques et de la techno en particulier. Je pense qu'artistiquement parlant, après Paris, c'était vraiment la première région de France en termes de dynamisme et avec une scène effectivement artistique très très forte entre Lyon, Annecy et Grenoble, tu l'as bien dit. De cette période tout de suite enchaînée effectivement cette chasse aux sorcières et cette grande vague de répression contre la techno, les raves, qui a connu la France après pendant à peu près 5 ans et qui a débouché, on y faisait allusion il y a quelques secondes, quelques minutes à la création de Technopole. Donc tout ça est né malheureusement aussi à Lyon. Donc ça a malheureusement fait que Lyon est devenu rapidement, après avoir connu des très belles années, une ville complètement sinistrée où à la fin des années 90, début 2000, bah, il ne se passait plus rien. On n'avait plus de scène, on n'avait plus de club, il n'y avait plus de soirée, il n'y avait plus de festival, il n'y avait plus de...
Et d'ailleurs, enfin, on disait que c'était la capitale de la répression techno même.
Oui, parce que tout est parti de Lyon. Et on avait notamment un préfet, le préfet Blanc et après Mariani, qui ont été les gens à l'origine notamment de la circulaire anti-techno et anti-rave que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, a après étendu à l'ensemble de la France. Donc oui, Lyon a été le symbole de cette répression anti-techno et ça a précipité la chute de cette ville, et pas que ville, région. Quand on crée et imagine le Festival Nuit Sonore en 2002-2003, voilà, il faut bien avoir à l'esprit que Lyon est une ville où depuis 3-4 ans, il ne se passe absolument plus rien. On n'a plus, à part exceptionnellement quelques bars, quelques petites soirées comme ça en bar ou soirées privées à droite à gauche, on a plus du tout de scène depuis 3-4 ans. Et Nuit Sonore a réenclenché ce dynamisme. Alors Lyon n'était pas non plus une ville complètement morte, parce que cette absence de scène, donc de soirées, d'événements où les artistes ne pouvaient pas jouer, bah pendant ce temps-là, les artistes l'ont mis à profit en s'enfermant dans leur cave, dans leur home studio, et en faisant de la musique. Et ça a contribué et permis à l'explosion de tout un tas de super artistes. Je ne vais pas tous les citer, mais je pense dans des courants différents, des gens comme Agoria, des gens comme Flore, des gens comme Le Peuple de l'Herbe. Voilà, c'est des gens qui ont pu... Hélas, de par cette absence de scène, on profitait pour mettre ça à profit, pour montrer tout leur talent de compositeur. Donc voilà, Nuit Sonore naît de cette volonté de rupture et de reconstruction d'une vraie scène forte dans un paysage complètement asséché et désertique, morcelé, de toute forme de scène, quoi. Et autant dire que ça a été une sacrée révolution dès la première édition de voir un événement comme Nuit Sonore complètement légal et autorisé pouvoir investir l'intégralité d'une ville pendant quasiment une semaine.
Bref, en tout cas, vous organisez des rêves à Lyon depuis maintenant 4 ans. Aujourd'hui, vous faites tout, et ça c'est important, c'est l'élément constructif dont nous parlerons également ce soir, pour que ces soirées, donc en extérieur le plus souvent, donc j'ai parlé de chantiers, d'immeubles, mais il y en existe aussi en pleine forêt, en pleine nature, dans d'autres endroits comme celle-là, soient autorisées officiellement par les maires et les préfets. Est-ce qu'il y a urgence selon vous ?
Oui, je pense qu'il y a urgence, sinon on va arriver à des dérapages qui seront incontrôlés. Et à mon avis, il va falloir, je pense, dans les prochains mois. En tout cas, je parle pour la région lyonnaise, parce que je crois savoir que sur Paris et sur d'autres villes comme Marseille, il y a des rêves officiels. Et à Lyon, on ne peut pas depuis un an, à cause de décisions préfectorales, on ne peut pas organiser de soirées officielles.
Mais est-ce que ces soirées ne perdraient pas un peu de leur intérêt si elles devenaient vraiment officielles, qu'elles perdraient leur côté souterrain, leur côté un peu interdit ?
Je m'entends. Quand je dis officiel, ce n'est pas vis-à-vis du grand public. Le grand public, lui, doit rester toujours dans le mystère. Par contre, officiel, c'est se mettre d'accord lors d'une table ronde avec les pouvoirs publics sur le point de rendez-vous, l'itinéraire, le lieu de la soirée, qu'il n'y ait pas de surprise, dans le sens qu'ils sont au courant et ils peuvent identifier et maîtriser quelque chose qui jusqu'à présent reste fluide. Et ils n'aiment pas, les pouvoirs publics n'aiment pas quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier.
Peut-être que vous pouvez expliquer à votre nouveau maire Raymond Barre ce que RAVE, R-A-V-E, signifie précisément.
Mais je l'ai déjà rencontré, ainsi que tous les autres co-candidats qui se présentaient. Et il m'a répondu, à mon âge, mes articulations ne pourront pas subir le BPM. Mais il a laissé son équipe, car il s'est entouré de jeunes. Et j'espère que la ville de Lyon, maintenant, va pouvoir vraiment se tourner vers l'avenir.
J'espère que M. Barre a un peu de temps pour nous regarder ce soir. Il en apprendra quand même quelques autres que vous n'avez pas eu le temps de lui dire lors de cette rencontre. Merci.
D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à cette époque-là qui a précédé. Dans une conférence au Sucre, en 2015, tu dis avoir eu 45 gardes à vue à ton compteur de ce temps-là où tu organisais des soirées.
Alors ça, c'est bien la période avant Nuit Sonore, hein. c'était vraiment la période des raves. Et justement de cette répression.
C'est
quand on allait mixer dans les teufs, les raves de l'époque, quasiment une fois sur deux à la fin de la soirée ou avant même la fin, on finissait en garde à vue, quoi. Je me suis retrouvé en garde à vue à la préfecture de Lyon avec l'adjoint du préfet qui avait un dossier de 150 pages sur moi, avec de l'intimidation, de la pression, toute forme d'intimidation qui pouvait être usée à cette époque pour faire qu'on arrête tout ça, quoi. C'était Une fois de plus, quand on n'a pas connu cette période et vécu ça, aujourd'hui, ça fait sourire et plein de gens nous traitent un peu de mythos et qu'on exagère. Mais non, c'était la triste réalité de cette époque-là, quoi. Moi, je suis resté pendant 2 ans et demi sur écoute. Enfin, c'était des choses assez invraisemblables et qui aujourd'hui ont heureusement plus du tout cours, même s'il y a malheureusement encore des annulations et une certaine frilosité dans certains endroits sur l'organisation d'événements. Mais c'est sans commune mesure par rapport à ce qu'on a connu.
Ok.
Il y a absolument tous les DJ de la soirée qui sont présents ici avec leurs managers, les petites copines, etc. Il y a des DJ régionaux, des DJ internationaux et sinon des DJ français qui viennent de Toulouse, Marseille, Nice, Paris, Dijon, Annecy, etc. etc. Très cosmopolite.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, dans le Reprocessus. On est avec Patrice Moore pour parler des Nuits Sonores.
C'est Vincent Carré qui est l'instigateur des Nuits Sonores. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Est-ce qu'il y a eu une étincelle, une idée particulière, une anecdote par rapport à d'où ça lui est venu en fait cette idée? Ou est-ce que c'était, comme tu dis, plus un contexte, un genre d'évidence, quelque chose qui est arrivé
Je pense que c'est une évidence, même s'il y a un contexte, et je vais en parler dans quelques secondes, mais... Après, Vincent s'est pas levé un matin en se disant tiens, on va monter Nuit Sonore. C'était que c'est depuis des années qu'on se côtoyait, qu'on se connaissait, c'était toujours dans un coin de notre tête qu'en tant qu'activiste de dire Lyon est notre ville et Lyon mériterait un jour d'avoir un vrai événement à son image, de son envergure et voilà, pouvoir monter un vrai événement, ce qui n'était pas encore l'idée peut-être d'un festival, mais en tout cas. Un événement d'importance et de qualité et de rayonnement suffisamment dont la ville puisse être fière. Et effectivement, cela a été possible avec la campagne pour la mairie la municipale en 2002 de Gérard Collomb, dont Vincent notamment était assez proche. Et on savait que Gérard Collomb partageait ces idées-là. On savait, et c'était dans son programme, que s'il était élu maire de Lyon, il s'efforcerait de gommer cette image de ville bourgeoise, triste, où il ne se passe rien, où la jeunesse n'a pas le droit de citer, et notamment de doter Lyon d'un vrai festival, pas forcément de musique électronique, mais d'un vrai festival qui pour et par et pour les jeunes, et qui parle aux jeunes, et surtout un festival avec un rayonnement international de notoriété européenne. Ouais. Donc en discutant avec lui, on lui a dit « Mais si tu es élu, nous, ce festival, on va te le proposer. » Il nous a dit « Pourquoi pas ?» On a écrit le projet et dès qu'il a été élu, on lui a soumis et il a dit « Bingo, je vais vous aider. » Voilà. Et c'est évidemment merci, grâce merci à lui Gérard. Et à son équipe municipale qu'on a pu avoir les soutiens, notamment sur l'attribution des lieux et les autorisations. Et évidemment une partie du financement, même si elle est assez faible par rapport au budget final du festival. Mais c'est dans ce contexte-là et extrêmement favorable politiquement qu'a pu voir naître ce festival qui, je le rappelle, à une époque où la ville était complètement sinistrée, où on était impossible d'imaginer ne serait-ce qu'une soirée techno dans une salle de concert.
Est-ce que c'était rare les festivals électro à l'époque ou peut-être les festivals qui investissaient des villes comme ça? Est-ce que vous aviez un modèle en tête, une référence qui...
Alors en France, non, puisqu'on est un peu les pionniers, les précurseurs, même s'il y a des festivals en France type Astropolis ou Nordic Impact qui existaient déjà, heureusement. On n'a pas de référence réellement, parce que c'est un vrai projet qu'on a complètement inventé et écrit dans toutes ses largeurs, mais effectivement, on a toujours des influences. Et notre influence principale était plutôt à trouver du côté du Sonar à Barcelone. Par son côté multi-site, multi-programme et surtout un vrai festival urbain. Voilà, les gros festivals, souvent c'est l'été, c'est extramuros, dans des chapiteaux, des parcs expo, etc., avec des campings, etc. Nous, on voulait pas ça. On voulait vraiment un festival intramuros qui mette en valeur le patrimoine de la ville. Et ça, le Sonar le faisait déjà plutôt bien.
Quand Vincent Carré te contacte, je crois savoir que tu étais en charge des projets extérieurs au début. Et en quoi ça consiste ?
La première édition, parce que moi j'avais repris depuis quelques années un job alimentaire, on veut dire. J'avais vraiment coupé les ponts avec tout ce milieu-là. Je travaillais pour la Fnac, Virgin, des sociétés comme ça. Donc le temps que je pouvais y consacrer n'était peut-être pas aussi important que par la suite. Et puis de toute façon, on n'avait pas les moyens de se salarier. Donc voilà, il a fallu bricoler un petit peu avec des bouts de ficelle. Et c'est vrai que mon rôle principal, justement, a été d'organiser un peu tout ce qu'on pourrait appeler dans d'autres types de festivals, les off, c'est-à-dire tous les projets qui intégraient la scène locale au festival. Voilà, on n'était pas un festival centré sur nous-mêmes, à se regarder le nombril. On a toujours voulu associer les clubs, les salles, les assos, les collectifs locaux. Donc mon rôle a été de piloter, de coordonner tous ces programmes-là qui associaient toutes les structures autres que la nôtre. Et c'était d'autant plus important sur Nuit Sonore, comme je disais, on était dans un contexte de ville sinistrée. Donc il nous semblait absolument nécessaire et incontournable que si un festival comme ça pouvait voir le jour, qu'on puisse donner la parole aux autres, pas qu'à nous-mêmes.
Est-ce que toi, tu vois un lien entre le fait de jouer des soirées, d'organiser des soirées, d'organiser des festivals? Tu as même été, je crois, un des premiers disquaires de Lyon. Oui. Est-ce que tu vois une continuité entre l'exercice global de la musique sur, a priori, des métiers, des compétences qui peuvent être assez différentes et jouer sur des niveaux différents, des problématiques différentes?
C'est le propre de cette culture, et en tout cas, dans ses prémices et sa première génération, on a toujours été tous multitâches, multicompétences, multipassionnés. Donc, je disais, moi, j'étais autant organisateur que DJ, mais effectivement, comme tu l'as dit, j'étais aussi disquaire, je bossais dans des émissions de radio. Voilà, c'est un des avantages de cette culture où on est de ne pas être cloisonné dans un rôle et une mission. Alors, effectivement, des artistes qui vont faire des grandes carrières, oui, mais pas que, je serais tenté de dire. Voilà, on peut voir des gens comme Laurent Garnier qui vont même réaliser qui va produire et qui a écrit son premier film. Enfin voilà, on a cette chance d'être pluridisciplinaire là aussi, et je trouve que c'est un des grands intérêts, une des grandes pertinences de cette culture. Je sais pas si ça répond à ta question.
Oui, bien sûr, exactement. Est-ce que tu peux rapidement rappeler quelles sont les grandes étapes et peut-être les principaux métiers nécessaires à l'organisation d'un festival de musique de ce genre-là?
Les principaux pôles, on va dire, la liste n'est pas exhaustive, mais il faut évidemment de la programmation, puisque on parle de culture. Donc si on est sur un festival de musique, il faudra des programmateurs musicaux. Il va falloir tout le pôle technique. Donc là, quand je parle de technique, c'est au sens large du terme, hein, les implantations de sites, tout l'aspect sécurité, et évidemment l'aspect technique du spectacle, le son, la lumière, la vidéo, toutes ces choses-là, la distribution électrique. Il va y avoir toute la partie administrative, parce qu'évidemment, aujourd'hui, un festival, se doit d'être quelque chose d'irréprochable au niveau de la réglementation. Donc l'administratif est très important. L'administratif, ce n'est pas que de la comptabilité, ce n'est pas que des fiches de paye. Hein, c'est tout le législatif, c'est toutes les questions de droit, de réglementation. Donc c'est très, très large. Et puis après, il va y avoir tous les pôles connexes, tels que la communication, tout ce qui a trait aux médias. Enfin voilà, c'est... Quand on voit quelque chose comme Nuit Sonore, je ne sais plus combien il y a de pôles différents, mais c'est énorme, parce qu'il y a tellement de programmes et d'activités diverses que... Mais bon, je pense que j'ai quand même cité les 5-6 essentiels.
Ouais. Et comment vous avez travaillé ensemble globalement sur la première édition? Vous étiez une petite équipe?
Ah, on a débuté, on était 6. 6 avec 3 ordinateurs et 3 salaires à mi-temps, à quart temps si je parle sur une année. Voilà, donc ça s'est fait vraiment avec 3 bouts de ficelle dans un bureau prêté par la ville de Lyon. Voilà, ils nous ont prêté un local avec 3 vieux ordinateurs qui allaient être mis au rebut. Et voilà, on faisait ça sur notre temps libre. Enfin, ah ouais, ça s'est fait...
En combien de temps?
Mais bon, c'était un peu la norme à l'époque, hein, je veux dire. À part des très grosses machines, des gros Live Nation, personne n'a commencé... aujourd'hui, Nuit Sonore, c'est plus de 50 salariés. Enfin, c'est des bureaux immenses avec, je sais pas, des parcs de 100 ordinateurs. Mais je pense que personne commence comme ça dans ce milieu-là.
Ça a pris combien de temps globalement
La première édition, ça nous a pris grosso modo 6 mois entre le start et l'événement en lui-même. Ce qui est à la fois beaucoup, mais dans l'absolu pas beaucoup. Sachant qu'aujourd'hui, un festival comme Nuit Sonore, c'est en flux tendu, ça s'arrête jamais. C'est un an de boulot. Et encore, on est toujours en train d'anticiper d'une édition à l'autre parce que. Programmer des artistes, trouver des lieux, des concepts, ça se fait, c'est un travail de longue haleine. Et si c'est pas fait pour cette édition-là, ça sera fait pour les éditions futures. Donc c'est un travail assez titanesque, parce qu'une fois de plus, on est multi-site, multi-programme. Donc c'est quelque chose de très complexe à organiser. le grand public s'en rend pas compte parce que tout n'est pas visible, effectivement, tout ce qui se passe, tout ce qui est nécessaire de produire derrière n'est pas visible et accessible au public, mais c'est un travail de longue haleine. Et je sais pourquoi j'ai arrêté au bout de 12 années mon job de directeur de production, parce que c'était extrêmement épuisant et beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, quoi. Et ouais. Au bout d'un moment, ça bouffe ton énergie et ça te bouffe même ta vie, quoi. C'était salvateur de faire un petit break et de penser un petit peu à autre chose, quoi. De se reconcentrer un peu sur soi-même, quoi.
Comment vous vous organisiez concrètement? C'était beaucoup de brainstorm, des réunions?
C'est beaucoup un travail, effectivement, de... Ouais, il y a beaucoup de réunionites, ça, c'est clair. Ouais.
Mais de toute façon,
c'est le propre du travail d'équipe. Et même si, comme on le disait il y a quelques minutes, c'est sectorisé par pôle, ça reste quand même un travail associatif et d'équipe, donc ouvert à la réflexion, aux idées de chacun. Donc ça se construit en fonction des envies et de la créativité de chacun, vraiment. Ouais.
J'imagine que le rapport avec les discussions avec les autorités locales, ça a dû être assez important au début.
Sur Nuit Sonore, justement, comme je disais, on a vraiment eu la chance d'avoir un soutien de la municipalité qui a voulu en faire un événement fort de la ville, et ça a réussi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est la ville de Lyon qui le dit, c'est qu'à Lyon, il y a trois grands événements à l'année, qui sont la Fête des Lumières, la Biennale de la Danse ou d'Art Contemporain, une année sur deux, et Nuit Sonore. Donc voilà, on est dans le trio, la Fête des Lumières, c'est un événement mondialement connu qui brasse plusieurs millions de spectateurs par an. Donc voilà, être associé sur ce podium-là, c'est quelque chose d'assez fabuleux pour nous et inespéré, mais même si rien n'a jamais été simple et même si rien n'est jamais gagné avec les institutions et les autorités, ça reste un combat au quotidien, notamment quand on utilise comme nous des lieux complètement improbables. Il faut refaire ses preuves à chaque fois et repartir de zéro. On a dans l'ensemble jamais eu la pression, en tout cas policière et préfectorale, que beaucoup d'autres événements ont, parce que voilà, la mairie était suffisamment soutien crédible du projet pour nous préserver, nous protéger de cette pression et cette répression policière.
Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors avant même de parler de programmation, je suis tenté de te poser la question des financements et du modèle économique. Comment vous avez pu trouver les financements au début à partir de rien, j'imagine?
Comme tout le monde, hein, c'est à 80 ou 90 ou 95% d'autofinancement. Donc c'est de la billetterie et des fonds propres, hein, des recettes de bar notamment. Un peu de subventions, évidemment la ville de Lyon nous a aidés, mais...
Qui a donné les financements? Les subventions, c'était qui? C'était la ville de Lyon?
Oui, la ville de Lyon essentiellement, un petit peu après la région et le département, et un tout petit peu au bout de quelques années, le ministère de la Culture, mais là on parle vraiment de gouttes d'eau dans l'océan. Hein. C'est pas leur rôle et vocation, faut pas se leurrer de toute façon. Mais non, c'est 95% du budget se boucle par de l'autofinancement. Et puis après, effectivement, il y a beaucoup de recherches de partenariats privés qui est un job assez fou et que là, il faut réinventer chaque année. Et c'est difficile, même sur un festival connu et reconnu comme Nuit Sonore, d'aller chercher de l'argent privé. Très difficile.
Rapidement, sur la stratégie de communication, comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes parti à base d'affiches et de flyers comme à l'époque du Triangle d'Or, ou est-ce que c'était beaucoup
absolument,
plus
absolument, ouais. Affiches, flyers, les petits livrets de communication. Évidemment, Internet, parce qu'à l'époque, c'était pas les balbutiements, mais bon, c'était pas encore ce que c'est devenu 17 ans plus tard. Non, on a un petit peu fait comme tout le monde, mais en y amenant notre touche, notre particularité et notre savoir-faire, nos idées, nos envies. Ouais. Je suis pas expert en la matière, je t'avouerai, c'était moins ma tasse de thé.
Ouais, pas de soucis.
Le voile est donc levé sur la programmation de cette 8e édition des Nuits Sonores, édition chargée.
Je suis quand même très heureux d'accueillir les Too Many DJs cette année sur Nuits Sonores. Le retour de Laurent Garnier, qui est quand même devenu le parrain et surtout un ami du festival. Vitalik, qu'on est très heureux d'accueillir cette année aussi avec son nouveau projet. Je citerai Hot Chip, évidemment, qu'on est aussi très content d'avoir.
Voilà pour les quelques noms parmi les plus savoureux, ou plutôt les plus connus, d'une shortlist qui regroupe cette année 230 artistes. Ils s'appellent Uncle Live, Zombie Zombie, Huffy, The Chap ou bien encore Gang of Four. C'est électro, évidemment, mais aussi résolument rock. Une prog qui, comme à son habitude, fuit le mainstream pour faire dans le Happy Few. En clair et en français, ça donne ça.
On vend une vraie qualité artistique. mais qui ne passe pas forcément par le label vu à la télé. C'est un festival et une programmation qui ne sont pas construites à partir d'un empilement de têtes d'affiches comme on peut l'avoir sur beaucoup de gros festivals européens.
Pour le reste, les organisateurs ont fait dans le style nuit sonorien, trois nuits au marché gare, un circuit électronique gratuit dans toute la ville et une carte blanche donnée cette année à la ville de Montréal. Sans oublier les fameuses siestes sonores qui prendront place sur le site du parc de Gerland. La diversité fait qu'il y en aura forcément pour tous les goûts. La programmation complète est d'ores et déjà disponible sur le site du festival.
Du coup, par rapport à la programmation, la DA, donc tu l'as dit, c'était pas que un festival techno. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même un petit accent techno sur la première édition? J'ai vu qu'il y avait... Bon, je suis pas un expert, je connaissais pas tout le monde. Il y avait Todd Terry, Monica Cruz...
Ouais, mais tu cites effectivement des artistes associés à la techno, mais je me rappelle par exemple de la nuit 3, donc le vendredi, qui elle était complètement rock alternatif. Donc non, ça a toujours été un festival où effectivement la musique électronique qui est la pierre angulaire de tout ça a une place essentielle, mais pas que, vraiment pas que. Si tu regardes la programmation chaque année, il y a beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir avec de la techno. On a fait du jazz, on a fait beaucoup de hip-hop, on a fait de la musique contemporaine. Enfin non, c'est extrêmement varié et on se défend effectivement d'être un festival qui ne programme que de la techno ou ouais. Que de la house ou que de la trance ou que du hardcore. Parce que c'est absolument pas dans nos gènes et dans nos goûts.
Moi, c'est marrant parce que la première fois que j'ai fait les Nuits Sonores en 2016, j'ai majoritairement fait du off. Et peut-être un ou deux événements officiels. Comment vous avez pensé à ces formules-là, du coup les apéros sonores, le off, le circuit électronique?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas du off. C'est vraiment l'intégration, c'est ce que j'expliquais, et c'était mon rôle initial dans le festival, que d'intégrer toute la... Bon, on va se trouver un autre endroit.
Ouais, on va bouger, ouais.
Oui, donc comme je l'ai expliqué auparavant, ce off n'est absolument pas du off, c'est vraiment l'intégration au festival des acteurs locaux, des scènes, donc les collectifs, les assos, les clubs, les salles de concert, voilà, tout ce qui peut être activiste de près ou de loin, de gens qui veulent s'investir dans ces cultures et qui ont envie de représenter leur ville au travers de ce festival. Donc dès la première édition, voilà, on a créé tous ces programmes, apéro sonore, circuit électronique, mini sonore pour les enfants, la carte blanche, etc. Après, avec le succès aidant du festival, le vrai off, lui, s'est développé. Tous les acteurs qui ne participaient pas au festival... Parce qu'il faut bien se dire qu'avec Nuit Sonore, en parallèle, au fur et à mesure des années, là où Lyon était une ville sinistrée, où il ne se passait plus rien, en 10 ans, on a changé du tout au tout. On nous a vite même appelé le Little Berlin, de par l'effervescence que pouvait avoir Lyon. Donc aujourd'hui, si tu te promènes sur Nuit Sonore en ville, tu ne peux qu'halluciner par l'offre qu'il y a. Et le vrai off aujourd'hui a pris une place considérable. Le moindre bar, restaurant, club... salle, endroit plus ou moins insolite, fait de la programmation pendant le festival. Alors que le festival lui-même a déjà une offre et une programmation extrêmement large et étendue. C'est impossible d'en faire ne serait-ce que la moitié.
J'ai vu ça, ouais.
C'est vraiment un truc de dingue, ouais.
Et est-ce que c'est ça, faire un festival dans une ville, c'est exploiter toutes les potentialités, les scènes de la ville, laisser une place à d'autres acteurs sans forcément...
Oui, ça a toujours été l'idée, la revendication. Ouais. Hein, on n'est pas centré sur nous-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, à se regarder le nombril et à défendre notre petit ego. Non, c'est... on est amoureux de notre ville, on est amoureux de cette culture et si on peut le faire partager au plus grand nombre, tant mieux.
Dans le même
ordre. Tout en ayant une cohérence artistique et une bienveillance, un fil conducteur évidemment cohérent, quoi. C'est pas faire tout et n'importe quoi non plus, sinon ça s'appelle l'anarchie et c'est plus un festival, c'est la Nawaki, quoi.
Et dans le même ordre d'idée, le motto du festival, c'est un laboratoire culturel, artistique et urbain. Et dès le début, il y a eu un parcours culturel en marge, si je puis dire, complémentaire de la seule musique électronique. Il y avait déjà des espaces de sonorisation, des expos. Bref, est-ce qu'il y a, ouais, il y avait cette idée de brassage créatif transdisciplinaire dès le début ?
Dès le début, et ça s'est concrétisé il y a maintenant, je ne sais plus combien d'années, ça m'échappe un peu, mais ça a débouché sur le festival parallèle à Nuit Sonore qui s'appelle European Lab. qui est toute la partie un petit peu incubation et réflexion, workshop, conférence sur ce qu'est notre société aujourd'hui à travers la culture, la ville, l'art, la politique et pas que. Enfin voilà, c'est un vrai brassage et qui n'a pas lieu d'ailleurs que sur Nuit Sonore parce que l'European Lab se décline sur plusieurs éditions en Europe, comme Nuit Sonore d'ailleurs commence à se décliner lui-même avec des éditions ouais. À Bruxelles, en Belgique, en Colombie. Non, c'est un grand brassage culturel assez dingue.
Ouais, j'allais y venir tout à l'heure. Est-ce qu'un festival qui marche comme le vôtre, il se doit de se diversifier absolument, ou est-ce que ça peut être ok de juste rester à se contenter de faire ce qu'on a
fait? C'est un choix, c'est de tester des nouveaux formats, des nouveaux horizons. On a aussi fait il y a quelques années Nuit Sonore Tanger au Maroc. Ouais. Non, c'est des aventures, c'est des partis pris, des risques, des tentatives. Voilà, quand on est créatif et qu'on déborde de projets et qu'on a la chance de pouvoir emmener certains à bien, et ben autant y aller. Hein.
Yes.
Faire toujours la même chose, c'est pas dans les gènes de Nuit Sonore réellement.
Ouais. Et par exemple, tu penses qu'il y a toujours une compatibilité entre toutes ces activités? Parce que par exemple, j'ai pas mal traîné à l'European Lab cette année là. Et c'est vrai que moi je me pose la question de savoir si c'est le même public qui vient.
C'est complémentaire.
C'est complémentaire, ouais.
Ouais, c'est un vrai festival. Voilà. C'est pas monoculturel, monopublic, monostyle. C'est ouvert à. Voilà, il y a des choses pour les enfants, il y a des choses pour les jeunes, il y a des choses pour les vieux, il y a des choses pour les initiés pointus comme pour les gens qui viennent juste découvrir. Non, c'est un vrai festival dans le sens premier du terme festival.
Si aujourd'hui tout semble encore bien calme, demain soir ce sera une autre histoire. Le festival Nuit Sonore débute ce mercredi au programme 5 jours et 5 nuits dédiés à la musique électronique avec cette année une vraie nouveauté. Le festival se concentre dans un seul quartier lyonnais, celui de la Confluence.
C'est un projet assez inédit pour nous, Confluence 2014, de venir dans ce quartier qui est complètement en restructuration. C'est aussi historique parce qu'on a occupé la sucrière lors de la première édition du festival.
Mais plus qu'une ambiance, les festivaliers viennent chercher des noms. Entre jeunes talents et poids lourds de la musique, la programmation est toujours aussi pointue. Parmi les 400 artistes attendus, citons les New-Yorkais de Darkside, l'anglais Fortet et bien sûr Kraftwerk pour le concert de clôture dimanche.
C'est un des artistes qui est sur notre tablette depuis le début du festival. Pour notamment une bonne partie de l'équipe, c'est le pourquoi du festival. C'est ce groupe qui est très fondateur dans la musique électronique.
Encore une fois, le festival devrait attirer du monde. Près de 45 000 spectateurs sont attendus. Le programme complet est à retrouver sur le site internet des Nuits.
Par rapport aux salles, à la ville en tant que telle, la première édition, ça a pris place à la Piscine du Rhône, à la Halle Tony Garnier, au Transborder, à la Sucrière.
Enfin, ce qui était avant la Sucrière, hein, encore une friche industrielle.
Tout à fait. Et oui, du coup, pourquoi ces salles-là en particulier? Est-ce qu'il y avait une, est-ce que c'est des lieux emblématiques? Est-ce qu'il y avait une volonté de...
La volonté de Nuit Sonore a toujours été d'explorer et de mettre en valeur le patrimoine.
Ouais.
Le patrimoine de la ville et notamment le patrimoine urbain et industriel, donc faire ça une fois de plus que dans des salles de concert ou des parcs expo, ça n'a jamais été le propos, même si on n'écarte pas notamment les salles de concert, parce qu'une fois de plus, elles font partie intégrante de la vie culturelle de la cité et à l'année, hein, ils ne sont pas là, c'est pas des projets éphémères comme Nuit Sonore qui dure 5 jours dans l'année. Donc voilà, c'était vraiment d'associer cette représentativité de lieux institutionnels, mais aussi de lieux complètement décalés. Et puis voilà, je pense qu'aussi c'est le propre de la culture électronique que toujours avoir organisé ces événements dans des lieux décalés et absolument pas fait pour ça, parce que c'est ce qui fait quand même beaucoup, beaucoup le charme et la réussite de ces soirées-là.
Et est-ce qu'il y a eu des contraintes propres à chacun de ces lieux en termes
de logistique, de technique et surtout de sécurité, bien entendu. Surtout sur un festival comme du Sonore où on se doit, notamment par le financement public, d'être complètement irréprochable dans le respect des réglementations. Donc c'est des enjeux et des budgets extrêmement lourds que de respect de la sécurité. Ouais. C'est pas parce que tu fais ça sur un rooftop, une église ou une école ou une friche qu'il faut faire n'importe quoi. Non, à chaque fois il faut respecter des cahiers des charges extrêmement stricts, précis et malheureusement très coûteux en termes d'aménagement. Ouais.
Et c'est une question encore une fois assez générale et assez naïve, mais ça représente combien de métiers et combien de monde le montage, le... la technique pendant les soirées
Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que comme moi j'ai quitté,
peut-être au départ,
j'ai quitté tout ça en 2014, mais jusqu'à 2014 où j'étais directeur de production, à la louche sur une édition standard, je serais tenté de dire que c'est à peu près un bon millier de personnes qui travaillent.
La première édition, c'était pas.
Ah, peut-être pas la première, non, mais voilà. On va dire à la 10e édition, là, cette année on a fait la 17e, on était arrivé à peu près à ce rythme de croisière d'un bon millier de travailleurs. Alors ça intègre des bénévoles, ça, c'est pas que des salariés bien entendu, mais entre les techniciens, les bénévoles, les prestataires, voilà, tout le staff, on est largement dans le millier de budget sur un événement, ouais. Sans parler du off. Hein.
Et concernant les transports pour la première année, est-ce qu'il y avait quelque chose de mis en place spécifiquement? Moi j'ai une pote qui me parlait d'une navette qui était là dans les premières éditions, mais elle ne sait pas exactement quand c'était.
Première édition, honnêtement je m'en souviens plus, mais ouais. Oui, très vite on a pu mettre en place avec la ville et les différents interlocuteurs le développement et l'aide au transport en commun, puisqu'évidemment qui dit festival interurbain et 100% urbain proscrit l'utilisation de la voiture, et de toute façon les sites utilisés n'étaient pas équipés de parking suffisant, et puis de toute façon, pour la sécurité des gens, il faut éviter. Voilà, c'est la norme que quand. Enfin, c'est normal de se dire un événement, aller faire la fête jusqu'à 5 ou 6 heures du matin, de ne pas prendre la voiture. Pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, ouais.
Comment, du coup,
on ça est dans c'est... La, on, pardon, on est, je t'ai coupé, on est dans santé publique avant tout aussi, quoi.
Justement, mais c'était un peu l'objet de ma question suivante, c'est comment ça s'est passé globalement c'était un succès, il n'y a pas eu de galère, de gros problèmes de santé, de sécurité?
Non, dans l'absolu, non. Il y a, quand vrai, on a eu un peu comme pour tous ces genres d'événements la gestion de la crise de croissance, quand vraiment le festival a explosé et ça a coïncidé avec une fois passé 2010, cette culture est devenue une culture établie et reconnue partout dans le monde et en France en particulier, et je ne veux pas dire une culture de masse mais presque. Aujourd'hui tous les kids connaissent la musique électronique, sont nés, ont grandi avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc. Donc quand cette culture s'est démocratisée, le festival a connu sa crise de croissance, notamment tous les événements un peu périphériques, tous les événements gratuits de journée sur l'espace public ont connu une crise de succès qui a été difficile à gérer et à maîtriser, et qui nous a aussi obligés après à repenser un peu certains formats et certaines formes d'organisation. J'ai perdu le fil de la question, pardon.
Non, mais c'était ça, le succès notamment de la première édition. Est-ce qu'il y a eu des galères? Est-ce que...
Non, après, il n'y a pas de vraie galère fondamentale, que ce soit en termes d'autorisation ou d'incident. Heureusement, on a toujours été préservé de tous ces soucis. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Hein, ça résulte d'un énorme travail de fond, de préparation et d'organisation pour maîtriser et contrôler tout ça, même si le risque zéro n'existe absolument pas. On n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Mais voilà, on est suffisamment pro et bienveillant pour limiter au maximum tout facteur de risque.
J-1 avant la soirée d'ouverture de la 13e édition des Nuits Sonores, ce festival incontournable de la scène électronique. Au marché Gare, où auront lieu les trois soirées de l'édition 2015, c'est une petite fourmilière qui s'active afin que tout soit prêt.
Surtout l'idée, c'était par rapport à l'édition N-1, donc celle de 2014, l'idée était de rendre le site plus accessible, on va dire, et surtout plus confortable. On a remarqué que l'an dernier, il y avait quand même pas mal de congestion, on va dire, de la foule, du public. Et du coup, cette année, on a vraiment souhaité élargir les espaces, créer plus de lieux pour se retrouver, notamment avec des aménagements de terrasses, espaces où on puisse se retrouver et profiter aussi en dehors des scènes et des espaces de danse, aussi du site du marché de Gros.
L'année dernière, les Nuits Sonores ont attiré plus de 130 000 personnes à Lyon. Le festival se concentre depuis deux éditions essentiellement dans le quartier Confluence, avec cette année une carte blanche pour la ville de Varsovie.
Chaque année, on invite une ville à Nuit Sonore. On va avoir une belle délégation d'artistes de Varsovie qui va se dérouler à quelques pas d'ici à la maison de la Confluence, avec des groupes tous les jours sur scène, puis aussi pas mal de graphisme, de design, des muralistes, des cuisiniers, une belle délégation culturelle de Varsovie.
Fidèle à sa réputation, la programmation musicale sera très éclectique avec des artistes de 22 nationalités différentes sur scène. Pour les retardataires, il reste des places pour la journée.
Dans le cadre des programmes, il y a un pote qui a fait une interview de Brice Courdet, qui est le DA de Weather Festival à Paris.
D'accord.
Et Brice a notamment évoqué l'importance de leur premier et légendaire en fait, festival au Palais des Congrès à Montreuil, qui a été en fait une énorme galère, il y a eu plein de problèmes. Mais ça a été une grosse réussite dans le mythe que ça a créé par la suite du Weather. Et est-ce que, ma question c'est, est-ce que du coup il y a eu un peu de ça dans cette première édition, sans la partie galère du coup, mais un genre de caisse de résonance pour la suite, peut-être dans le bouche à oreille que ça a créé, ou se crée une visibilité
Ouais, alors les galères, faut pas se leurrer, hein, ça a jamais été facile non plus, surtout la première édition, hein, comme je disais, elle s'est montée avec trois bouts de ficelle, un budget ridicule à l'image du résultat. Donc les galères elles sont dans les coulisses, elles se voient pas, c'est des galères d'organisateurs. C'est pas des impondérables, nuisibles, mais des galères, on en a eu. Mais donc, c'est pas ce qui est... Le festival n'a pas été un succès, une réussite visible contre vent et marée. Non, le festival a été une réussite parce que le public s'y a retrouvé, ça lui a plu et ça lui a parlé. C'était réellement, comme je disais, on a monté le festival que nous, on avait envie de voir et faire en tant que festivalier. Et je crois que les festivaliers de la première édition l'ont vécu comme ça aussi. Ouais. C'était le festival que le festivalier attendait de voir dans sa ville, parce que la première édition aussi n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. La moyenne d'âge c'était des trentenaires, hein. C'était trentenaires voire beaucoup de quadras, donc c'était un petit peu toute la génération qui avait connu 10 ans avant, 15 ans avant l'éclosion et l'explosion de la musique techno en France, et qui depuis plusieurs années sortait plus parce que y avait plus bien grand chose à faire, en tout cas s'y reconnaissait plus. Et un festival comme Nuit Sonore, enfin moi j'ai revu des gens que je voyais plus depuis 10 ans et que j'ai retrouvé l'après-midi en train de danser dans une rue, un verre à la main, et un énorme sourire jusque derrière les oreilles. Quoi. Et
c'est vrai que le public a bien
évolué. La formule est facile et toute faite, mais on a été au bon endroit au bon moment avec le bon projet, vraiment.
C'est vrai que le public a bien évolué quand on voit ce qu'il est aujourd'hui, c'est beaucoup plus jeune.
Aujourd'hui, ça semble une évidence quand on va à Nuit Sonore, mais faut se dire qu'il y a 17 ans, quand tu recontextualises les choses, c'était pas si évident que ça, quoi.
Est-ce que vous étiez dans vos frais à la première édition ?
Je me souviens plus. Franchement.
Oh là là, ça remonte trop loin, c'est de l'archéologie à ce niveau.
Si on a perdu de l'argent, ça devait être acceptable, puisque la preuve, c'est qu'on a fait une deuxième édition derrière.
Du coup, à partir de.
Je pense pas qu'on en ait gagné pour autant, hein, mais.
tu deviens rapidement directeur de production. C'était à partir de quand et en quoi ça consiste exactement ?
La vraie casquette de directeur de production, on me l'attribue à la troisième. En vue de l'organisation de la troisième édition, parce que là, je lâche mon boulot. On peut se salarier, même si c'est rien d'extravagant. Hein. Faut pas s'imaginer qu'on a bien gagné nos vies avec ce festival, loin de là. Mais dès la préparation de la troisième édition, je lâche mon boulot parce qu'on a pu se dégager un petit salaire, moi et mes 5 autres cofondateurs. Et donc là, on prend tous une étiquette et un rôle au sein de la structure. Et comme sur cette petite équipe de l'époque, j'étais le seul qui avait vraiment ce passé d'organisateur et de vraie expérience de terrain, on élargit mon rôle de un peu programmateur des projets extérieurs à l'organisation du terrain dans tous ces aspects, notamment logistiques. Donc voilà, la production de l'événement, quoi.
Et est-ce que vous avez changé votre façon de travailler ? Peut-être rationaliser le fonctionnement avec le grossissement des équipes, la
sans cesse, c'est un bouleversement déjà des gens. Hein. Il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées, beaucoup de départs, beaucoup de changements de poste. Non, c'est un renouvellement et des changements de méthode, de personnes, de méthodologie et d'organigramme d'équipe permanent. On disait tout à l'heure, c'est toujours des nouveaux projets, des choses qui évoluent sans arrêt. C'est pareil dans la façon de faire et dans l'organigramme.
Vous aviez des méthodes de travailler en équipe particulière, précise, ou c'était...
Je pense pas, non. Enfin, rien de révolutionnaire, en tout cas. On a rien inventé et breveté en la matière, même si on avait nos spécificités, forcément. Mais non, je pense que c'est grosso modo à peu près le même schéma que tout le monde. Hein,
Est-ce que c'est beaucoup d'Excel ?
Bon, chacun a ses outils. Ouais. Moi, personnellement, oui, c'était beaucoup d'Excel, des tableaux... interminable et quand tu gères plusieurs centaines plus d'un millier de personnes, forcément c'est des quand tu essaies de faire ça de la manière la plus pointue et la plus structurée possible, ouais, c'est une rigueur organisationnelle et d'outils tels qu'Excel. Je faisais partie des rois d'Excel, ouais, c'est clair.
Les tableaux croisés dynamiques.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, dans le reprocessus. On est avec Patrice Moore pour parler des nuits sonores.
Ouais, globalement, pour revenir un peu à toi, t'as arrêté au bout de 12 ans. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui était si éprouvant est-ce que c'est un milieu que tu recommanderais à des jeunes qui voudraient organiser des festivals ou est-ce que c'était spécifique aux nuits sonores peut-être est-ce que c'est les 12 ans
Non, mais moi, arrêter, c'est un peu comme quand j'ai arrêté ma carrière artistique au début des années 2000. C'est l'accumulation de tout un tas de facteurs extrêmement souvent différents. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop complexe. Et puis, des choses très personnelles aussi qui me regardent. Mais c'est vrai que la somme de travail que représentait Nuit Sonore et la pression énorme a fait qu'au bout d'un moment, il y a une forme de lassitude et de enfin, c'est hyper chronophage, ça te bouffe et qu'il fallait, je me suis rendu compte à un moment où qu'il fallait que je me repose, que je prenne des distances, du recul, que je pense un peu plus à moi. Et puis il y avait aussi, sans rentrer dans le détail, besoin de régénérer peut-être un petit peu la mécanique en interne, d'avoir des nouvelles. Ça revient un peu sur la question d'avant, de nouvelles têtes, de nouvelles méthodes, de nouvelles approches et perspectives. Donc je sentais que c'était aussi le moment peut-être dans mon pôle à moi de passer à autre chose. Pour finir de te répondre, effectivement, quelqu'un qui... Moi, je peux que recommander ce genre d'aventure, mais sous, je dirais, deux conditions. Un, la passion. Il ne faut pas se tromper de combat. C'est quelqu'un qui n'est pas passionné, ça ne sert à rien de le faire. L'argent n'est pas une fin en soi. Et la deuxième chose, il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, parce que c'est pas un métier facile, quoi qu'on en pense. Ça peut être hyper sympa et agréable une fois quand ça marche, mais ça passe par beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de contraintes, beaucoup de pression, comme je viens de l'expliquer. C'est une énorme satisfaction quand le projet aboutit et qu'il fonctionne et qu'il plaît, que c'est une réussite. Mais il y a quand même un gros prix à payer. Ouais, conseiller à quelqu'un de faire oui, mais voilà, il faut avoir bien ça en tête, quoi.
J'avais une question. Si tu pouvais donner aux auditeurs ou plusieurs conseils de choses à faire ou à ne pas faire pour monter son festival ou son événement culturel,
j'aurais pas cette prétention parce que chaque projet a ses spécificités, chaque organisateur, chaque personne a sa personnalité, a sa vision des choses, a sa façon de penser, de faire, de voir, de s'organiser. Donc non, la liste serait tellement non exhaustive que non. J'ai dit juste avant, voilà, ce que je pense comme être les fondamentaux avant de s'investir dans ce type de profil et de carrière. Enfin, carrière, dans le meilleur des cas. Mais après, les conseils, non, ça serait trop réducteur.
Right. Tu as joué aux Nuits Sonores, notamment en 2017, pour les 15 ans du festival.
Ça a été ma première et dernière fois. Hein. C'était.
Ouais. Tu n'avais pas joué à la première édition aussi ?
Non, alors j'avais joué sur des soirées du circuit électronique. Donc, circuit électronique, c'est la nuit 2, c'est le jeudi. Donc, c'est le jeudi, c'est les assos locales qu'organisent ou les clubs qu'organisent leur propre soirée. Donc ça fait partie intégrante, c'est pas du off, ça fait partie intégrante du festival. Mais c'est pas quelque chose qui est organisé et en tout cas pas programmé directement par le festival. Donc au début, ouais, j'ai eu l'occasion de jouer sur 2-3 soirées du circuit électronique ou des apéros sonores d'ailleurs. Mais vraiment sur le in, sur les grosses soirées programmées et organisées par le festival en lui-même. Non, ça a été la seule fois. Et de toute façon, comme j'avais arrêté ma carrière, même si je continue un peu à mixouiller à droite à gauche, c'était pas le propos. On s'est toujours aussi défendu de faire du copinage et il n'y avait aucun intérêt à ce que je sois programmé sur un festival comme Nuit Sonore. Par contre, sur les 15 ans, 2017, voilà, ça fait 3 ans que j'ai quitté Artifarty, donc la sauce qui organise Nuit Sonore. Ça fait 3 ans que j'ai repris ma carrière de DJ, que ça commence à plutôt bien marcher pour moi. Et les programmateurs du festival en recherche d'un artiste pour faire le closing du festival après plein de... Enfin, au départ, ça devait revenir de manière innée à Laurent Garnier, mais pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait. Il n'a pas pu faire ce closing. Laurent est historiquement le parrain et l'artiste, un peu le résident du festival. Et donc ils sont longtemps creusés la tête pour savoir qui pourrait assurer ce closing, surtout derrière les Chemical Brothers, ce qui n'était pas rien. Le plus gros nom et la plus grande tête d'affiche que Nuit Sonore a pu proposer dans son histoire.
Franchement, c'est un beau symbole, c'est les 15 ans. C'est
et en plus, c'était les 15 ans, donc ils voulaient quelque chose d'un petit peu symbolique et fort. Et ils se sont dit, mais s'il faut que ça soit fort et symbolique, autant le confier à quelqu'un qui, localement, par son histoire, son passé, son rayonnement. Voilà, on va pas aller forcément chercher de l'énorme tête d'affiche, on va être plus malin et subtil que ça. Et bah voilà, c'est tombé sur ma tronche.
C'était comment alors?
C'était un kiff énorme de jouer devant plus de 8000 personnes, de faire ce closing, ce final devant. Alors, pas un public acquis, parce que évidemment, sur ces 8000 personnes, je pense que plus de la moitié ne me connaissaient pas, notamment les plus jeunes, mais j'ai fait en sorte qu'ils me découvrent quoi. C'était un énorme moment, un kiff, avec notamment un final avec toute l'équipe derrière moi, avec les bouteilles de champ et tout. Enfin, malheureusement, ça a duré que 2 heures. J'aurais aimé que ça s'arrête jamais quoi.
Trop bien. J'ai fait le closing cette année. Black Madonna, c'était ça aussi. C'était même ambiance de fin où tout le monde vient sur la scène. Il y a quelque chose d'assez unique quoi. Mmh. On l'a dit, tu as arrêté l'organisation des Nuits Sonores en 2014 pour revenir au DJing. Bah, ça marche plutôt bien pour toi. Est-ce que tu as définitivement quitté l'organisation d'événements ou c'est quelque chose qui pourra revenir
Faut jamais dire jamais. Voilà, c'est fait. Moi, je l'ai dit d'ailleurs. Non, au jour d'aujourd'hui, c'est plus dans mes. J'ai plus cette fibre. Mais la passion, ça s'arrête jamais. Donc, il y a rien à exclure. Une belle idée, le bon projet, le bon. Aujourd'hui, j'aurais plus une envie d'avoir quelque chose de fixe, de retourner vers une création de club, une résidence de club, enfin, être sur un projet pérenne plutôt qu'éphémère. Parce que voilà, avec l'âge, on a envie aussi de se poser, d'avoir des repères, d'avoir des choses un peu cloisonnées. Mais voilà, il faudrait aussi que ça soit quelque chose de suffisamment original et ouvert et créatif pour que ça ait un intérêt, que ça puisse susciter en moi l'idée de rempiler dans la. De m'investir réellement dans un projet, mais j'ai plus envie de collaboration, de coprod. Tu vois, là, il y a quelques mois, j'ai fait la programmation du Festival Impact au Mans, à la demande. Enfin, j'étais un peu le curateur, le parrain. Voilà, ça, c'est des choses plus qui m'intéressent que d'aider et de participer à une aventure qui est déjà en marche.
Peut-être plus consultant que organisateur.
Ouais, enfin le côté, pour moi, ça a toujours été dans ce milieu, cette musique, ces environnements-là, depuis que je suis tout gamin, c'est l'aventure humaine avant tout, c'est les rencontres, c'est les collaborations qu'on peut avoir avec les gens, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, qu'on vienne te chercher pour dire, tiens, fais un bout d'aventure avec nous, avec une prise de risque en plus limitée, parce que voilà, comme je disais, j'ai un peu passé cet âge-là que tout remettre en jeu sur la table et de prendre tous les risques. Mais partager ces risques et collaborer à des idées, des aventures, des projets, ouais, ça, c'est des choses assez intéressantes. Mais peut-être plus sur un aspect artistique aujourd'hui que purement coulisses, qui sont peut-être moins mes centres d'intérêt aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci à toi et merci à vous, chers auditeurs.